I'd like to have a democracy.
Élections, le magazine des élections municipales de Radio PFM. Aujourd'hui, pour ce quatrième numéro, on est avec Nico, Boris, Guy, salut.
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 Hello.
Élections 4 avec au programme notre dossier du jour consacré à une initiative du collectif féministe Arajois qui a élaboré des propositions concrètes concernant les problématiques auxquelles les femmes sont régulièrement confrontées pour interpeller les candidats à la mairie d'Arras et plus largement dans et à la CUA. Dans sa chronique aux urnes citoyens, Guy nous plongera ou pas dans l'ambiance des fêtes. Mais aussi, tout de suite, on vous propose un passage en revue des candidatures dans la région. Alors, on ne pourra pas explorer toutes les communes aujourd'hui, donc on a fait une petite sélection. On va d'abord faire un tour sur la métropole lilloise, d'abord à Lille, chef-lieu régional de nos Hauts-de-France. Nico ?
Alors, vous vous souvenez peut-être qu'il y a 6 ans, en 2020, ça avait été très très chaud au second tour entre Martine Aubry pour le PS et l'écolo Stéphane Bally. 227 voix d'écart seulement au second tour. À un moment de la soirée, on avait même cru que Stéphane Bally serait élu. Ça avait été annoncé dans les médias. C'était en pleine vague verte dans les grandes villes en France, Marseille, Bordeaux, Lyon. Finalement, Martine Aubry avait bien été réélue. Après 24 ans à la tête de la ville, elle a cédé son poste en mars dernier à Arnaud Deslandes. C'était un peu de la surprise d'ailleurs parce que tout le monde s'attendait à que ce soit l'héritière, la sénatrice Audrey Lincolnheld qui soit désignée. Bref. Alors Arnaud Deslandes est d'ores et déjà candidat pour 2026. Sa liste s'appelle Tout pour Lille. Lui est PS, mais il jouira aussi du soutien du Parti communiste lillois. En face de lui, Stéphane Bally pour les écologistes. La liste s'appelle Lille Demain. Elle vient juste d'être rejointe, c'est tout récent, c'était samedi dernier, par les mouvements Génération et Après, notamment. À un moment, on avait cru qu'il y avait une autre liste à part à gauche qui serait formée. On y retrouve notamment Julien Poix qui était candidat pour LFI auparavant. Pour LFI, justement, Laouria Hadouche. Alors, je vais vous passer les noms des 10 parce que sinon, ça va être un petit peu trop long. Côté centre, centre-droit, il y a Violette Spilbou, députée du groupe Ensemble pour la République, anciennement Renaissance, à nouveau candidate. Pour les LR, Louis Delemaire. Et pour le RN, Mathieu Vallée. Un divers droite, le jeune David Mestchi. Et à gauche de la gauche, le NPA révolutionnaire qui présentera une liste qui sera conduite par Damien Scali, cheminot de 39 ans. Et puis il pourrait y avoir aussi une autre liste, un collectif animé par l'asso L'Offensive et l'autre NPA, le NPA anticapitaliste, qui travaille ensemble à un programme d'inspiration municipaliste libertaire. Alors, on rappelle que des listes peuvent encore être déposées jusqu'à février. Est-ce que le PS peut perdre Lille? Ça risque d'être à nouveau très serré. Un sondage publié fin septembre donne 5 listes à plus de 10%. Donc ça pourrait aussi se jouer au jeu des alliances et ça sera intéressant de voir ça.
Qu'est-ce que ça dit du côté de Roubaix?
Alors à Roubaix, c'est compliqué. La ville avait basculé à droite en 2014 avec Guillaume Delbarre qui a été élu UMP, LR, puis a rejoint En Marche. Mais impliqué dans une affaire de fraude fiscale, il a été condamné et démis de ses fonctions depuis le 1er décembre dernier. Il est inéligible et c'est son successeur qui devrait être Alexandre Garcin qui a annoncé être candidat au municipal en mars. Face à lui, un divers gauche Karim Amrouni avec le soutien de quatre partis de gauche, les écolos, PCF, PRG, Place Publique, et une première mesure forte annoncée, la cantine gratuite pour tous les élèves scolarisés à Roubaix. Il y aura aussi pour le PS Mehdi Chala, pour LFI David Guiraud, un divers droite André Hibon, et pour le RN, ça sera Céline Saya.
On jette un coup d'œil du côté de Tourcoing.
Là aussi, une commune qui a basculé à droite en 2014. C'est à cette époque qu'on a découvert Gérald Darmanin, aujourd'hui ministre de la Justice. Il n'est plus maire de Tourcoing, il a cédé sa place à Doriane Bécu. C'est elle qui sera candidate en mars. Et face à elle, on a pensé un moment à une large union de la gauche. Finalement, il y aura bien plusieurs listes. Celle menée par Cathy Wulstecker qui est écolo. Sa liste s'appelle « Nous Tourcoing », soutenue par le PS, le PCF. Et il y a une autre liste d'hiver gauche, celle menée par Franck Talpart, qui s'appelle Citoyen, Citoyenne, en écriture inclusive. Côté LFI, ce sera Émilie Cross, la tête de liste, et il y aura aussi sans doute un candidat RN.
Nico, tu termines en nous parlant d'une petite particularité locale.
Et oui, à Lille, il y a des endroits où l'on vote pour deux maires. C'est le cas à Lomme et à Hellem, deux villes limitrophes de Lille, des communes associées qui ont un fonctionnement à mi-chemin entre une ville indépendante et un quartier, un peu comme un arrondissement si vous voulez. Donc dans ces deux communes, il y a un maire, une mairie, des services, mais elles ont aussi un fonctionnement commun avec Lille. Leurs élus siègent également au conseil communal. Et du coup, les électeurs doivent élire deux maires, deux bulletins de vote. Donc par exemple à LM, hein, on peut voter pour un maire LFI et pour la mairie de Lille, un maire écolo si on veut.
Ok, merci Nico pour cet éclairage. Boris, c'est à toi, tu t'es intéressé aux candidatures dans le bassin minier.
Et oui, le Rassemblement national annonce 6 têtes de liste autour de Lens. Le député Rassemblement national, donc Bruno Clavé, qui n'est pas encore candidat déclaré à la mairie de Lens, a dévoilé les noms des têtes de liste investies par son parti dans 6 communes de sa circonscription, la 3e du Pas-de-Calais, et le parti d'extrême droite sera notamment représenté à Avion. En ce qui concerne évidemment le Parti Socialiste, Sylvain Robert, actuellement maire de Lens et président de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, a annoncé sa candidature également au municipal de 2026. Il était accompagné de ses soutiens politiques de gauche, allant de communistes à place publique, en passant par les écologistes, mais sans la France insoumise. Il est aux commandes de la municipalité de Lens depuis 2013. Du côté d'Hénin-Beaumont, la gauche est dans les starting blocks. Inès Taouri aura la lourde tâche de conduire en mars prochain la liste d'opposition de gauche au maire Steve Briouat du Rassemblement National, plébiscité en 2020 dans un contexte de forte abstention et figure de proue de l'opposition municipale à l'extrême droite au pouvoir depuis 2014, Marine Tondelier. Toute occupée à ses fonctions de secrétaire nationale des écologistes, a décidé donc de passer la main, tout en maintenant son soutien au groupe Osons pour Hénin-Beaumont, qu'elle a cofondé il y a 6 ans. C'est donc Inès Taouri, encartée Parti Socialiste, qui portera les espoirs de la gauche en 2026. Du côté de Grenay, Daisy Duveau reprend le flambeau du Rassemblement National à Antoine Iba, jusqu'alors numéro 2 à l'opposition Rassemblement National à Grenay. Et Daisy Duveau sera cette fois à la tête de la liste présentée par son parti aux élections municipales de mars prochain. Elle sera opposée à Christelle Buissette, maire communiste de Grenay, qui se représentera. Et puis enfin, du côté de Liévin, c'est aussi le Rassemblement National qui a officialisé sa tête de liste à Liévin, donc Dany Peiva, 29 ans, assistant parlementaire et ex-candidat à Nîmes, mènera la liste installée récemment dans la commune. Il défiera le maire sortant, Laurent Duporge, du Parti Socialiste, qui est pointé du doigt d'ailleurs par Mediapart, qui a établi un palmarès des maires qui usent et abusent des frais de représentation.
Merci Boris, on continue notre tour de la région avec la côte et les dunes de Flandre. Direction tout d'abord Boulogne-sur-Mer, dont l'actuel maire est Frédéric Cuvillier, encarté au Parti Socialiste. Même si celui-ci ne s'est pas encore déclaré candidat, les Boulonnais s'imaginent déjà un duel entre celui-ci et le candidat du Rassemblement National, Antoine Goliot. Actuel député de la 5e circonscription du Pas-de-Calais, Antoine Goliot a déjà annoncé être candidat au duel face au maire sortant, si celui-ci se lance dans la campagne. Ce n'est pas une première pour lui, puisqu'il s'est déjà présenté en 2020, obtenant alors 15% des suffrages. C'était sans compter sur les outsiders, l'élan citoyen boulonnais, une liste ancrée à gauche, apartisane et participative, selon leurs propres mots. Il se présente comme la troisième alternative au duel Goliot-Cuvillier. La liste qui reçoit le soutien d'Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise entend justement dépasser les logiques partisanes avec un maximum de représentants sans étiquette et un programme construit avec des acteurs locaux. On passe à Dunkerque où Patrice Vergrit, d'Hiver Gauche, annonce être candidat à sa réélection à la mairie de Dunkerque avec sa liste « Bien vivre à Dunkerque ». À l'heure actuelle, on retrouve face à lui un candidat RN, Adrien Nave, conseiller municipal depuis 2014. Avec la liste « Impossible n'est pas dunkerquois », ici une petite particularité, en effet l'opposant Rassemblement National a officialisé sa candidature à Dunkerque, à peine une semaine après avoir annoncé sa candidature à Saint-Paul-sur-Mer. Candidature qu'il justifie de la manière suivante auprès de nos confrères de la Voix du Nord. Je cite « Saint-Paul-sur-Mer s'est rattaché à Dunkerque pour grandir tout en restant Saint-Paul ». Aujourd'hui, cette commune est dans une soumission la plus complète sous l'emprise de Dunkerque. C'est ce virage qui a entraîné mon choix. Il leur faut plus d'autonomie, plus de marge de manœuvre. Fin de citation. Dans les premières propositions du candidat, proposer la gratuité des licences sportives pour les jeunes, lutter contre la délinquance et l'immigration clandestine, stopper le projet d'éolienne en mer, mais aussi une idée surprenante, le mot était bien trouvé par nos confrères, la volonté de créer un puits du fou dunkerquois. Et on termine avec Calais, où Natacha Bouchard, actuelle maire LR, est candidate à sa réélection avec le slogan « Proche de vous, engagé pour Calais » et des ateliers citoyens pour construire son programme. Alors en 2020, elle l'avait emporté dès le premier tour avec 50,24% des suffrages, mais les candidats de l'opposition, Marc De Florian, RN, et Guy Delplanque, candidat outsider qui avait finalement rejoint la liste de gauche de Laurent Roussel, avaient chacun de leur côté demandé l'annulation de l'élection de cette liste menée par Natacha Bouchard. Demande rejetée par le tribunal administratif de Lille. Si les élus Rassemblement National de Calais disaient à l'époque prendre acte de la décision du tribunal, Guy Delplanque assurait qu'il allait saisir le Conseil d'État. On parlait de lui juste avant, Marc De Florian, actuel député Rassemblement National de la 7e circonscription du Pas-de-Calais, se présentera lui aussi aux élections municipales de 2026. Ce sera sa deuxième participation. La gauche présente de son côté un binôme avec la communiste Marion Lavigne, conseillère municipale depuis 2023, et le socialiste Nicolas Vernald sur la liste Agissons pour Calais. Encore incomplète, elle réunit socialistes et communistes, rejoints par Génération. En cas de victoire, Marion Lavigne dirigerait la ville de Calais. Nicolas Vernald vise, lui, la présidence de l'agglomération Grand Calais. Olivier Carreau, professeur au lycée Léonard de Vinci, devrait mener une liste lutte ouvrière en 2026, mais rien n'est encore officiel. Enfin, une possible dernière candidature, Caroline Matra, avocate de profession et conseillère départementale, conseillère municipale de 2001 à 2020 à Calais, dans la majorité tout d'abord sous Jacky Hénin, parti communiste français, puis dans l'opposition à Natacha Bouchard. Pas encore candidate, elle n'écarte pas cette possibilité de créer un projet collectif pour Calais. Voilà pour ce tour d'horizon des candidatures officielles dans la région. On va passer à la chronique de Guy. Aujourd'hui, nouvelle chronique aux urnes citoyens, chronique pour nous mettre dans l'ambiance des fêtes, chronique le Mère Noël.
Impossible d'y échapper, Noël a pris place dans le centre d'Arras et on ne parle même plus de marché de Noël, je cite le maire d'Arras, Frédéric Le Turc. Cette année, c'est avec beaucoup d'émotion que nous célébrons les 36 ans de notre ville de Noël, la plus grande ville de Noël au nord de Paris, précise-t-il. Avec 150 chalets illuminés, une atmosphère où chaque détail est pensé pour nous émerveiller. Et notre maire de s'illuminer, je cite toujours, « Depuis 1989, notre ville a su tisser une histoire unique où la magie de Noël ne s'offre pas, elle s'invente. » Alors magie pour les uns, assurément, vu le nombre de visiteurs, gabegie pour d'autres, sans doute, vu la perplexité de certaines arajouettes et certains arajois devant un événement au format qu'ils jugent disproportionné. En ces temps de préparation des prochaines élections municipales, Frédéric Le Turc ne manquera pas de mettre en valeur cette ville de Noël qu'il considère comme une preuve du dynamisme de l'action municipale et notamment pour rendre la ville attractive. Il sera aussi intéressant d'examiner le discours sur ce sujet ou peut-être l'absence de discours des autres candidats à la mairie d'Arras. Mais pour le moment, ce qui est sûr, c'est qu'Arras est ville Noël et qui dit ville Noël dit maire Noël. Et sachez que le maire Noël n'a pas manqué à la tradition de la lettre au Père Noël, une lettre qu'il a déposée, comme sont invités à le faire toutes celles et ceux qu'il souhaite, à la maison du Père Noël, place d'Ipswich. Alors c'est un scoop, mais la magie de Noël a opéré et PFM a eu accès à cette lettre. Une lettre beaucoup trop longue pour que je vous la lise intégralement, en voici donc quelques extraits. Cher Père Noël, j'espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas trop débordé en cette période de l'année où tout le monde sait que vous êtes énormément sollicité. D'ailleurs, un grand merci à vous d'être autant présent à Arras dans la maison que nous vous avons préparée avec grand soin. De mon côté, j'avoue que c'est compliqué en ce moment. La ville de Noël ne me laisse aucune minute de répit. Entre vin chaud et dégustation d'huîtres, j'ai quand même trouvé le temps de vous écrire. Alors avant de vous donner la liste de mes souhaits de cadeaux, je tiens à vous faire savoir que mon comportement durant cette année 2025 a une nouvelle fois été irréprochable. Je parle bien entendu de mon dévouement sans faille pour qu'Arras, votre fête, soit la plus belle. S'ensuit l'énumération de tout le programme d'Arras Ville Noël que je vous épargne, une énumération qui se conclut ainsi, je cite « Lors de votre passage dans notre bonne ville, vous ne serez donc pas surpris de constater qu'il arrive qu'on m'appelle le maire Noël. N'y voyez bien entendu aucune forme de concurrence, loin de moi l'idée de prendre votre place, et cela même si j'envisage l'an prochain d'inviter mes administrés à m'écrire une lettre au maire Noël avec leurs souhaits de cadeau. » Fin de citation. Je ne sais pas comment va réagir le père Noël à ces propos, peut-être avec le sourire devant une telle franchise, mais je le vois bien froncer les sourcils devant la longueur de la liste de cadeaux qui suit. Voici au hasard quelques-unes des demandes de notre maire Noël. Être élu un nouveau maire d'Arras en mars prochain, aider le premier tour des élections, ce qui me permettra d'économiser de l'énergie pour préparer les festivités de Noël 2026. Être réélu président de la communauté urbaine d'Arras, récupérer pour le beffroi un lion d'Arras plus beau que jamais, du beau temps pour la fête de l'Andouillette, être enfin invité sur la grande scène du Main Square avec mon groupe Petit Papa Noël, gagner enfin le championnat du monde de la frite, des touristes à gogo toute l'année et des arrajois aussi en grand nombre favorables au développement de la ville Noël. J'ai en effet entendu dire que certains commençaient à se lasser. Une abbaye Saint-Var rutilante et luxueuse, le moins de manifestations possible en centre-ville, de l'eau et de l'air de bonne qualité, une circulation fluide, des créations d'emplois, une jeunesse écoutée et un troisième âge entendu, bref, des arrajoises et arrajois heureuses et heureux. Et notre maire de conclure, vive Noël, vive le Père Noël et vive la ville de Noël. Voilà. Chères auditrices et auditeurs, c'était une exclusivité de Radio PFM. Nous venons de vous proposer des extraits de la lettre au Père Noël du maire de la ville de Noël. Un maire dont on ne doute pas qu'il cherche à faire plaisir à tout le monde, un peu comme le Père Noël. Mais n'oublions pas que le Maire Noël, c'est comme le Père Noël. On peut y croire comme on peut ne pas y croire.
Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers.
Merci Guy Lepolarski. En effet, une liste très longue, liste presque aussi longue que celle dont on va parler avec le collectif féministe arrajois. On retrouve maintenant notre dossier de la semaine. Alors, je les présente, hein, Colette, Laurence, Céline du collectif donc féministe arrajois. Collectif qui a élaboré une liste de 40 propositions pour un engagement en faveur de l'égalité femmes-hommes. Il invite ainsi les différentes listes candidates à la mairie d'Arras et plus largement dans et à la CUA à s'engager sur les propositions de leur choix. On échange avec elle au sujet de cette initiative.
Alors le collectif n'est pas une association, mais est ouverte à toutes les femmes d'Arras et d'ailleurs qui souhaitent militer en faveur du droit des femmes et plus globalement aussi de l'égalité hommes-femmes et contre les violences sexistes et sexuelles. Ça fait à peu près 5 années que ce collectif existe avec un noyau dur d'une dizaine de personnes et autour de ça d'autres personnes qui gravitent, qui participent à certains événements. Pas forcément à tous. Donc on a des rendez-vous sur toute l'année pour mener des actions dans l'espace public, de sensibilisation à ces causes, une chorale et également des temps forts comme une scène ouverte qui a lieu 1 à 2 fois par an.
Alors ensemble, on va parler d'une initiative que vous proposez, une liste de 40 propositions pour un engagement en faveur de l'égalité femmes-hommes. Vous invitez les différentes listes candidates aux mairies de la communauté d'urbaine en 2026 à s'engager sur les propositions de leur choix. Alors, première question, de quel constat part cette initiative ? Vous parlez dans le communiqué de presse, notamment de l'analyse des besoins sociaux de la CUA.
Oui, alors l'analyse des besoins sociaux, c'est un document qui a été produit par la communauté urbaine et qui vise un petit peu à faire un portrait du territoire, du point de vue social, sociologique même presque. Et donc ce document, qui date déjà d'il y a quelques années, met en évidence pas mal d'inégalités entre les femmes et les hommes. Alors c'est pas propre au territoire de la communauté communautés urbaines. Évidemment, on retrouve ces inégalités un peu partout en France, malheureusement. Mais on constate en tout cas que ces inégalités, elles sont présentes sur le territoire, voire pour certaines plus marquées qu'ailleurs. Et donc, notre idée, c'est de se dire, là, on a un temps fort pour débattre autour de ce sujet-là avec les élections municipales et comment on peut peut-être donner des idées aussi aux listes qui se présentent, qui ne sont pas forcément toujours aguerries sur ces questions-là, qui n'ont pas forcément toujours pris le temps de faire des recherches sur ce qui peut se faire ailleurs dans d'autres collectivités. Et donc l'idée, c'est de faire un certain nombre de propositions qui sont, on va dire, facilement mises en place dans une collectivité, quelle que soit sa taille, aussi bien une grande ville comme Arras que dans un petit village de la communauté urbaine. Donc voilà, c'est un peu à la carte. Chaque liste peut s'en saisir, peut se saisir d'une partie des propositions, de toutes les propositions. Voilà. L'idée, c'est vraiment de se faire force de proposition.
Comment vous avez travaillé dessus? Parce que j'ai lu que vous aviez un petit peu exploré les mesures qui ont été éprouvées sur d'autres territoires.
Oui, on s'est inspiré de plusieurs documents. Alors, j'ai pas toutes les références là, évidemment. Documents qui ont été faits sur différents territoires, mais aussi des documents d'institutions qui ont travaillé sur le sujet et qui ont identifié tout un tas d'actions qui permettaient d'aller dans ce sens-là. Donc, c'est pas des choses qui sont complètement ésotériques. C'est des choses qui sont effectivement ancrées dans la réalité et qui ont été testées et éprouvées, donc faisables.
Alors, parmi la liste de propositions, 6 grands volets. Le premier, vie municipale, gestion des ressources humaines, espaces et lieux publics. En un seul volet, sport, culture, vie associative et économique. Ensuite, lutte contre les violences sexistes et sexuelles, éducation et sensibilisation. Colette, je vais m'adresser à toi. On n'est pas sans savoir que tu étais conseillère municipale de l'opposition, que tes relations avec la majorité étaient plutôt conflictuelles. Mais est-ce que tu pourrais peut-être nous dresser un bilan de l'engagement du conseil municipal sur l'égalité femmes-hommes sur les 6 dernières années, ou en tout cas sur les derniers résultats là, qu'on a eus avec le dernier conseil municipal ?
Alors oui, la ville d'Arras, comme l'ensemble des collectivités aujourd'hui, s'engage de plus en plus sur ces questions et heureusement. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'obligations. Aujourd'hui, les grandes collectivités sont tenues de mettre en place typiquement le rapport sur la situation comparée entre les femmes et les hommes au sein des collectivités. Donc ça, c'est une obligation légale. Donc la ville d'Arras y répond, la communauté urbaine aussi d'ailleurs. Pour autant, effectivement, j'ai eu l'occasion de le souligner quand j'étais élue, mais voilà, je continue à le porter en tant que militante au sein du collectif féministe. Je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin et que la ville d'Arras a les moyens de faire davantage qu'elle ne fait aujourd'hui. Alors aussi, au-delà de ça, je voudrais parler pas que de la ville d'Arras. C'est-à-dire qu'il me semble aussi important de montrer que sur ce sujet-là, même dans une petite commune où il y a peu de moyens, on peut faire des choses. Ça passe vraiment par des petites actions. Par exemple, une des actions qu'on met en évidence dans nos propositions, c'est le fait, par exemple, d'assurer une parité entre le maire et son premier adjoint, et entre, par exemple, le maire et le représentant ou la représentante au sein de la communauté urbaine d'Arras pour les petites communes. Aujourd'hui, c'est très loin d'être le cas, puisque la plupart du temps, donc, les maires sont en très grande majorité des hommes dans la communauté urbaine et ils sont représentants de leur commune au sein de la communauté urbaine. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une communauté urbaine où la parité n'existe pas, puisqu'il y a à peine 30% des élus qui sont des femmes. Donc voilà, c'est ce genre de proposition, vraiment, voilà, c'est vraiment un engagement qu'on peut mettre en place. Ailleurs, ça se fait, et pourquoi pas chez nous.
Alors vous allez rendre public les engagements pris par chacune des listes hein, pour informer les électrices. C'est un moyen aussi peut-être de contraindre ces candidats, candidates à agir et à pas en faire qu'un discours, à les rappeler à l'ordre tout au long de leur mandat peut-être futur.
Un collectif a vocation à prendre parti sur la place publique. Et dans ce cadre-là, effectivement, c'est important pour nous, surtout en temps d'élection, d'être présent pour mettre un peu la pression aux élus et voir aussi quels engagements ils vont prendre pour faire changer les mentalités. Parce qu'en fait, là, depuis tout à l'heure, on parle effectivement de changements profonds. Donc c'est pour ça que ça touche un certain nombre d'angles, d'approches sur lesquels on se sent obligé de réagir et d'être impliqué. Donc quelle que soit la couleur politique, l'idée c'est vraiment effectivement d'être à la fois, pourquoi pas, un espace ressource, en tout cas un document dans lequel on puisse puiser des éléments de veille en fait, pour avoir une forme de vigilance, mais aussi pour faire avancer les choses quoi, concrètement.
Et encore une fois, j'insiste aussi sur le fait que c'est pas que pour les grosses communes, c'est aussi pour les petites communes qui, voilà, ont parfois peu de moyens pour s'engager sur ces sujets, de montrer qu'il y a des actions qui sont, entre guillemets, faciles à mettre en place et que finalement, il ne tient qu'à nous de décider de le faire et d'allouer un petit peu de moyens. On parle de vraiment de certaines actions, ça ne coûte rien, c'est vraiment un choix politique quelque part. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ce débat-là, il dépasse un peu les frontières des grosses collectivités, donc en l'occurrence la ville d'Arras ou voilà, la ville d'Inville ou de Saint-Nicolas, enfin qui sont les plus grosses communes sur le territoire, qui ont les moyens un peu de porter ces politiques-là, mais que ça aille infuser dans l'ensemble des petites communes de la communauté urbaine et in fine aussi à la communauté urbaine où ce sujet est un peu un non-sujet. C'est un vrai sujet de vivre ensemble. Donc voilà, c'est le sens de ce qu'on porte. Encore une fois, les listes sont libres de s'engager ou non. Aujourd'hui, on a une liste sur Arras qui s'est engagée. Alors on n'a pas fait non plus encore une diffusion massive auprès de toutes les listes, mais on a une liste donc Arras à gauche qui a déjà d'ores et déjà signé, une liste qui a commencé à s'engager, donc le printemps arageois qui a commencé à s'engager sur un certain nombre de propositions, et on lance aujourd'hui vraiment un appel à l'ensemble des candidats et des candidates sur toutes les communes de la communauté urbaine. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez qu'on puisse aussi vous expliciter peut-être certaines de nos propositions, qu'on puisse en débattre, en échanger, ou qu'on puisse tout simplement vous retransmettre la liste des propositions sur lesquelles vous serez libre de vous engager ou non.
Voilà Colette, Laurence et Céline du collectif féministe Arageois. L'interview complète est à retrouver sur le site de PFM, www.radiopfm.com, et lundi dans Info 30 à 7h30, 12h30 et 18h. C'est la fin de ce magazine Élections, quatrième numéro. On se retrouve l'année prochaine pour un nouveau dossier, suivre l'actualité de la campagne et une nouvelle chronique aux urnes, citoyens, citoyennes. Salut.
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 Salut. Democracy.